Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une personne qui a choisi de vivre une vie hors des sentiers battus. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Hakim Ben Hammou, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va Sidi?
Très bien, merci à vous.
Alors avec vous, on va parler de retour aux sources. On va parler aussi de décisions justement osées, puisque vous avez monté dans un endroit finalement qui est peu connu, peu touristique, qui est Bhelil, un village, une maison d'hôte. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'homme que vous êtes à prendre un risque pareil?
Ben, écoutez, Yasmine, c'est ma passion qui m'a poussé réellement à réaliser ce projet. En fait, je suis de carrière commerciale. J'ai travaillé un peu dans pas mal de secteurs différents. Et puis, à un certain moment, j'ai commencé à penser à promouvoir mon propre projet pour essayer de voler de mes propres ailes. À partir de là, je me suis concentré à chercher l'activité qui me plaisait le plus, bien évidemment.
Okay.
Donc, vu que je suis petit-fils d'agriculteur et que j'ai grandi dans la nature, ben, je me suis dit ben, que ça pouvait être un très bon créneau. Donc, du coup, je me suis investi initialement en créant une entreprise d'excursion en quad pour les touristes. Chose qui m'a permis de découvrir la région dans laquelle je suis aujourd'hui installé, qui est le Bhelil.
Alors, aujourd'hui, vous êtes un businessman, vous montez vos propres projets, mais je pense que lorsque nous avons eu un premier échange, vous m'avez dit que vous n'avez pas fait d'études et que vous aviez tout appris sur le terrain.
Tout à fait, tout à fait. Je reconnais que je n'étais pas très bon à l'école. Et puis que depuis mon jeune enfance, je me voyais comme homme de terrain. Même en étant en classe, je pensais à être ailleurs et à faire autre chose. Donc voilà, après...
Alors justement, quand on n'a pas fait d'études, est-ce qu'on l'assume?
Parfaitement.
Oui.
Parfaitement. Il y a plusieurs méthodes d'avancer dans la vie.
Oui.
Les études est la méthode la plus classique, certes, chose que je conseillerais à mes enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs méthodes. Maintenant, chacun trouve sa manière d'aller en avant et de chercher sa vie, comme on dit.
Mais quand vous avez annoncé à vos parents que vous ne vouliez pas faire d'études, qu'après le bac, c'était fini pour vous, alors qu'on sait que pour les parents, en général, la grande fierté, c'est quand les enfants décrochent leur bac, vont faire leurs études, décrochent un diplôme, un diplôme qui assure un métier. Ça, c'est une très grande fierté pour les parents, et j'imagine surtout pour la génération de vos parents. À ce moment-là, quand vous leur avez dit « moi, ça ne sera pas les études », ça a été pris comment?
Bah, tout à fait. Sachant que nous sommes 5 frères et sœurs, et puis tous mes autres frères ont assuré des diplômes, on va dire, à haut niveau. Donc, pour mes parents, c'était juste impossible que leur fils le plus jeune n'ait pas un diplôme autant que ses frères et sœurs. Donc, nous avons fait une première tentative. Je suis allé en Espagne pour faire des études. Au bout de 3 ans, je reviens vers ma décision et puis je leur explique que j'étais plus fait pour le travail que les études.
Okay.
À partir de là, mon père, que Dieu ait son âme, a compris les choses comme elles étaient. Et puis, il m'a dit, écoute, pourquoi pas, allons-y, passons au côté professionnel.
Alors, si on peut creuser encore pendant cette période-là, désolé de vous embêter avec ça, Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti un peu comme le vilain petit canard de la famille, le plus jeune, celui qui sort un peu des normes, tous les autres ont décroché leur diplôme, celui qui donne, entre guillemets, le plus de fil à retordre à ses parents? Est-ce qu'on se sent un peu... Est-ce qu'on se sent différent? On se sent à l'écart? On a peur de décevoir?
Pas vraiment.
Yek?
Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en fait, je me suis senti toujours faire les choses différemment.
Mm.
Et j'ai toujours dit que on n'est pas obligé de ressembler aux autres
mm.
pour bien faire.
Mais souvent, les études sont aussi comparées à un niveau intellectuel. Dans notre société, on parle beaucoup de l'écaré ou l'émaqarish.
Tout à fait.
Même si la... Alors, j'ai l'impression, en fait, je vais faire un parallèle. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une jeune femme, et j'avais cette discussion il y a quelques instants avec une collègue, justement, avant de démarrer cet entretien. Je ne savais pas que j'allais sortir cet exemple maintenant. Vous prenez une jeune femme, OK, qui fait de très bonnes études, qui décroche un super boulot, qui s'achète sa voiture, sa maison, qui voyage, qui vit sa vie. Il lui manquera toujours quelque chose aux yeux de la société. La société lui dira toujours « Ewafouqashran farhoubik ». Est-ce que, ok, vous voyez un petit peu l'image, Fouqashran farhoubik. Est-ce que par rapport justement à ces histoires d'études, vous êtes un homme, vous réussissez vos affaires, j'imagine qu'il doit y avoir des hauts et des bas.
Est-ce que,
bien sûr. Est-ce qu'il y a des moments où on ne vous dit pas « Weshti kun kreti, tu n'en serais pas là ».
Jamais.
Eh ben, vous êtes chanceux alors.
Jamais.
Les hommes ont plus de chance que les femmes dans notre société. Kéna ou la Makéinesh ? Qui n'a jamais entendu Fouqashran farhoubik pour les femmes ? Quelle que soit sa position.
Ça existe pour les hommes aussi.
Oui, mais à moindre... À moindre dose, c'est-à-dire, voilà. Alors, si en plus de ça, elle ne fait pas d'études et qu'elle n'est pas mariée et que, finalement, qu'est-ce que ça devient en général ? Ça devient la fille qui va s'occuper de ses parents parce qu'elle n'a rien à faire, même Jouja, Makaria. Alors, c'est quoi ? C'est l'imrad, c'est elle qui s'en occupe et c'est comme ça. Absolument. Donc, je vous lâche avec les études. Maintenant, pour vos enfants, justement, si vos enfants venaient vous dire « Papa, je ne veux pas étudier », quelle serait votre réaction ? Quelle serait...
Je m'investirais au maximum à ce qu'ils fassent des études.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a manqué à vous par rapport à ça ?
Non, pour tout simplement prendre le chemin le plus classique.
Et pourquoi ça ?
Pour être conventionnel.
Pourquoi ça ? Pourquoi vous ne l'avez pas été ? Pourquoi vous voulez que vos enfants le soient ?
Je ne l'ai pas été, mais j'ai eu la chance d'avoir un père, l'Irhamou encore une fois, qui était très particulier et qui a su me gérer. Ça n'a pas été simple pour lui.
Mm.
Ça n'a pas été simple parce qu'à un certain moment, en retournant d'Espagne, je me suis retrouvé avec une année sabbatique à rien faire, à me réveiller tard. À chercher que les belles choses qui me plaisent et qui m'amusent. Et à partir de là, moi, quand je me mets à sa place, j'ai dû qu'il a eu beaucoup de...
De patience.
A eu beaucoup, tout a, beaucoup de, non, surtout beaucoup de sagesse en pouvant m'orienter vers le business et vers la... Parce que je pouvais rater m'entérailler en allant vers un monde différent et puis qui n'achemine pas systématiquement vers la réussite.
Bien sûr.
J'ai eu la chance d'avoir un père qui a vu ça venir et qui a su me serrer les rênes, me reprendre en charge et me mettre dans le droit chemin avec une méthode qui était très stricte et que c'était tout simplement la clé de démarrage de ma vie professionnelle.
C'était quoi cette méthode ? Qu'est-ce qu'il a fait ?
Tout simplement, il avait arrêté de me fournir tout confort, tout simplement. Donc, d'un jour à l'autre, il a décidé de tout arrêter. Il m'a enlevé les clés de la voiture. Dans le temps, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Il a interdit à ma mère de m'offrir aussi tout confort possible.
Donc pas d'argent, pas de voiture, rien.
Pas d'argent, pas de voiture, rien.
Rien.
À partir de là, je me suis retrouvé un monsieur personne. Donc, même mes amis qui étaient proches dans le temps, vu qu'ils n'avaient plus de voiture, que je n'avais plus de moyens et que je ne pouvais pas faire ce que je faisais avant, donc ils s'éloignaient petit à petit. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi ou deux de réflexion, je me suis dit, bah, Hakim, écoute, tout simplement, aujourd'hui, tu comprends que si tu ne réussis pas ta vie, un jour ou l'autre, tu seras réellement et sans parents dans une situation pareille. Et là, ça a été le déclic total et puis j'ai switché vers le monde professionnel.
Alors Hakim, justement, quand on entend des parents dans cette galère-là et qui disent « t'as allé le mort d'eau », avec notre expression « derija »,« t'as allé le mort d'eau et tu vas voir si ou je m'arrête, je mets charasso », c'est vrai?
Oui, c'est vrai, parfaitement. Parfaitement. Maintenant, ça n'a pas été, ça n'a pas été la première méthode. Ils ont essayé d'autres avant. qui n'ont pas donné leurs fruits. À partir de là, ben voilà quoi, c'était la dernière méthode, l'ultime méthode et qui était la bonne à mon avis.
Vous avez fini par voir de la fierté dans les yeux de vos parents?
Absolument. Ouais. Absolument.
C'était quand justement ce moment-là de fierté?
Ben, au
et
bout
de soulagement pour eux aussi.
Au bout de 3-4 ans de travail, je me retrouvais autant que commercial dans une société leader en système d'information. Et puis un jour, c'était à Rabat, et un jour, je suis rentré en week-end pour voir les parents en Fès, et on commençait à discuter, papa et moi, Rahmo. À partir de là, je lui racontais mes réalisations, mon progrès professionnel et tout, et puis il m'a dit, bah, écoute mon fils, franchement, je suis fier de toi, de tout ce que tu fais, c'est très bien, mais encore, j'aurais préféré que tu aies un diplôme comme tes frères et sœurs.
Oui, oui.
Et là, j'ai répondu, papa, soyons pragmatiques. On va prendre les personnes de mon âge, de mon niveau social avec qui j'ai grandi et qui ont fait leur étude. Aujourd'hui, nous comparons nos deux nos postes...
Parcours professionnel.
Tout à fait. J'étais largement plus haut.
Alors, question quand même. Comment vous avez convaincu votre premier recruteur sans diplôme? Comment on vous a fait confiance? Parce qu'en général, quand on passe un entretien, il faut avoir un bagage.
Tout à fait. C'est une très bonne question. Moi, je me rappellerai toute ma vie de ce premier entretien qui était avec un directeur d'agence d'une grosse boîte qui était leader dans le temps des systèmes d'information. Et puis, donc, je suis allé le voir pour éventuellement un poste commercial.
Vous l'avez rencontré où?
À Rabat.
Vous l'avez rencontré par hasard? On vous a envoyé?
Pas du tout. Je l'ai rencontré à travers mon beau-frère qui était dans les systèmes d'information, qui était ingénieur informaticien, qui avait parlé de mon cas à son ami qui était dans le système d'information aussi et qui était intéressé de me voir.
Ok.
Donc, à partir de là, nous avons eu l'entretien.
C'est lui qui vous a donné votre première chance, on va dire.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et naturellement, vu que je n'avais pas fait d'études en général et encore moins en système d'information, je n'ai pas répondu à 80% des questions techniques. Ce qui était normal. À partir de là, je me rappelle très bien, à la fin de l'entretien, il me disait « Est-ce que vous voulez avoir mon feedback ?» J'ai répondu oui. Il m'a dit, bah, écoutez, tout simplement, vous avez un énorme potentiel commercial. La fibre est là. Par contre, techniquement, vous êtes vide. Maintenant, on peut s'engager si vous acceptez ma proposition. Oui, bien sûr. Il me dit, bah, écoutez, je m'engage à vous former et vous engager à exécuter à la lettre ce que je vous demande.
Il vous a appris le métier?
Tout à fait, c'est ce qui a été fait.
Quand il vous dit on s'engage à vous former, c'était à l'extérieur ou en interne même?
Ça a été fait, c'est les deux.
Même chez Tichtkara ou même chez Tichtkara?
J'ai fait des, en fait, après, j'ai fait des formations.
OK.
Mais, ce n'était pas dans un premier temps.
OK.
Au début c'était une grosse société avec différents pôles. Mm. Donc, il a commencé à me lâcher sur les différents pôles. Et je travaillais un pôle par mois avec des réunions chaque fin de semaine pour voir la progression, tout en mettant toute l'équipe de la structure à ma disposition. Tout le monde était là pour m'aider, pour m'expliquer. Donc, ça a été la première étape. La deuxième a été de l'accompagner en binôme chez les clients. Mm. Et encore une fois, j'étais vraiment là à assister, écouter et jamais réagir pendant un premier temps, pendant 2-3 semaines, jusqu'au jour où je me rappelle très bien, ça a été encore une fois un déclic pour moi. C'était une réunion sur, je vais pas dire le nom, mais c'est une grosse structure marocaine à Qnitra de production. Bon, et nous avions une présentation d'un logiciel pas mal, assez important, on va dire. Mm. Donc, une fois arrivé sur le parking, il me dit, Hakim, bah, écoute, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la présentation. Mm. Mais monsieur, c'est pas possible. Non, il me dit, eh ben écoute, c'est très simple. Ce client est entre tes mains. Tu veux faire la présentation, on rentre. Tu fais la présentation. Tu ne veux pas, ben on rentre. On va discuter un peu avec eux et on dit qu'on reviendra plus tard. Mmh. Et puis on aura raté un client. Donc c'est ce qui a été fait. On est rentré, on a sorti le data show, le PC, le laptop. Puis il a lancé la présentation et puis. Sans me reconnaître, j'ai commencé à présenter la présentation qui s'est passée dans les règles de l'art. C'est venu tout seul, on va dire.
Ouais. Ça, c'est le vrai « learning by doing ».
Tout à fait.
Hatzid, vous êtes toujours en contact ?
Absolument, absolument. Et comment ?
Ouais. Alors, aujourd'hui, vous avez monté votre propre maison d'hôtes. Donc, c'est un domaine différent.
C'est une ferme d'hôtes.
C'est une ferme d'hôtes. La différence, c'est quoi, justement ?
Alors, la différence entre une maison et une ferme d'hôtes, c'est la superficie. Mmh. Alors, une ferme d'hôtes doit dépasser absolument un hectare et devrait avoir des activités agricoles en parallèle que touristiques.
D'accord, OK.
C'est-à-dire que
le label.
Le label ferme d'hôtes, il faut absolument avoir un élevage, des arbres, de l'agriculture, plus de terrain, plus d'un hectare de terrain et surtout recruter du monde de la région.
OK. Et c'est ce que vous avez fait, justement. Ça fait combien de temps que ça tourne ?
Ben, j'ai lancé Bhelil Farmhouse en avril 2023. Sachant que je me suis lancé à construire ce projet en 2018. Mmh. Et puis, je me suis arrêté pendant les 2 ans des Covid.
Bien sûr, bien sûr. Vous y habitez maintenant, carrément ?
En partie, on va dire à 50%. À 50%. Je suis à 50% à la ferme, 50% sur Fels.
Alors, Bhelil, vous connaissiez bien ?
Bhelil, non, pas du tout. C'est un village que j'ai connu en faisant du sport.
OK.
Avant de m'engager sur ce projet-là, j'étais très sportif, je faisais beaucoup de vélo tout-terrain. J'étais notamment président de l'association des VTTistes de Fès. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cette région en m'entraînant à vélo. Et puis j'avais trouvé cette région très intéressante. Mmh. Donc j'ai connu la région en 2014, j'avais adoré cette région, mais je n'avais aucunement dans le temps l'idée de faire un projet dedans, vu que j'étais dans un autre secteur qui était la promotion immobilière.
OK, donc vous avez travaillé dans l'IT, vous avez travaillé dans la promotion immobilière, vous montez aujourd'hui votre ferme d'hôtes, voilà. Et en fait, vous contribuez en quelque sorte à faire connaître, participer à créer une forme de tourisme dans cette région.
Absolument, absolument, absolument. Ben, là, je suis... je dirais un des acteurs qui sont là pour promouvoir le tourisme dans la région et surtout dans le Moyen Atlas, qui est une région magnifique que beaucoup de nous ne connaissent pas. Mm. Et qui a énormément de potentiel, qui est à côté de Fès, à 30 km. Donc voilà, oui, c'est tout à mon honneur et à mon plaisir aussi. J'ai autant de plaisir et d'honneur de faire ça.
Alors, on annonce justement une vague de froid pour cette semaine, des chutes de neige. Vous êtes concerné aussi ?
Pas vraiment, parce que nous ne sommes pas à l'altitude nécessaire. Généralement, la neige, c'est à partir de 1000 mètres d'altitude. Nous sommes
d'accord.
À 850.
Okay.
Mais nous avons déjà vu des chutes de neige à deux reprises.
Et voici
c'est très léger par rapport à Imouzer et Ifrane qui sont...
C'est ça, exact. Ben alors écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage. On vous souhaite... Est-ce que vous pensez qu'un jour, Halil Farmhouse sera derrière vous et un autre projet renaîtra ?
Derrière moi, je ne pense pas. C'est un bébé que je tiens à pousser, à faire grandir de tout cœur. Donc je fais ce projet par amour. Très probablement, j'aurai des projets en parallèle, mais je pense que je serai installé à Halil Farmhouse tout en gérant les autres projets.
Votre mère est fière de vous aujourd'hui ?
Absolument, elle a toujours rêvé, elle est fille d'agriculteur, elle a toujours rêvé d'avoir une ferme. Dans un certain sens, aujourd'hui, j'ai réalisé une partie de ses rêves.
Ouais. Eh bien, en tout cas, merci infiniment d'avoir été ma version homme de femme d'aujourd'hui. Justement, Hakim Benhammou, merci. Merci beaucoup d'avoir été
merci
là et
vous.
Merci de nous avoir raconté sans langue de bois, justement, les péripéties de votre vie.
c'est avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.